C'est pas du vent.
Igor Strauss.
Bonjour. Chaque année, en Angleterre, deux espèces d'animaux, de variétés de plantes disparaissent. C'est la moyenne calculée par l'organisme gouvernemental Natural England en 2010, lors de la plus grande étude sur la vie sauvage effectuée dans le pays depuis 200 ans. En tout, près de 1000 espèces animales et végétales sont en danger imminent à cause de l'industrialisation et de la pollution. Alors depuis quelques années, certains fermiers font de grands efforts pour respecter et redynamiser la faune et la flore. Angleterre, des fermiers au service de la nature, c'est un reportage de Marie Billon en partenariat avec l'Union européenne.
C'est pas du vent sur RFI.
Le printemps a été long à venir, mais le soleil flatte enfin les terres de Michael. Nous arrivons à Burwash Manor Farm, au cœur de la région du Cambridgeshire, sur les coups de midi. Michael nous a donné rendez-vous chez lui, mais seul son chien répond à l'appel et il n'a pas l'air heureux de nous voir. Ce n'est que quelques minutes plus tard que nous voyons Michael descendre de son grand tracteur bleu. C'est surtout du blé que ce fermier de 65 ans cultive sur ses 180 hectares. La plupart de ses cultures sont bio. Les terrains où il utilise des produits chimiques sont ceux qu'il loue à court terme. Comme il faut laisser reposer le sol au moins 4 ans sans pesticides pour obtenir le label bio, il n'a pas vraiment le choix. Chaque jour, Michael va travailler dans ses vastes champs, mais toujours en tracteur ou dans sa Jeep. Il a perdu la moitié de sa jambe gauche lors d'un accident du travail en 1988. Il n'y a pas grand-chose que je ne peux pas faire, dit-il, en conduisant sur la route menant de sa maison jusqu'à ses terres, à quelques centaines de mètres plus loin. Un coup de volant et il fait monter sa voiture sur le trottoir pour la faire passer à travers une haie épaisse taillée pour créer une entrée étroite. Les premiers champs s'étendent à perte de vue.
Nous pratiquons l'assolement. On change de culture chaque année. On commence par le trèfle violet, puis on a 2 ans de blé, puis du trèfle blanc, et puis encore 2 ans de blé et rebelote avec le trèfle violet. Le champ sur la droite, par exemple, en ce moment, c'est du trèfle blanc. On s'en sert pour nourrir le bétail pendant l'hiver. On le conserve en faisant de l'ensilage. Là, devant nous, c'est le second blé. En fait, sans les trèfles qui produisent de l'azote, on ne pourrait pas faire pousser notre blé, car il en a besoin pour se développer. Et ensuite, donc, la quatrième année, on cultive le trèfle blanc que le bétail aime brouter. Et bien sûr, après avoir brouté, les vaches produisent de la bouse qui contient aussi de l'azote et qui est bon pour le sol. Nous sommes des cultivateurs de blé, pas des éleveurs. Et si nous avons des vaches, c'est parce qu'elles sont utiles à notre production.
Je suppose que c'est quelque chose que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas bio.
Non, peut-être pas. Cela dit, de plus en plus d'agriculteurs se rendent compte des avantages de cette technique. Donc en Angleterre, aujourd'hui, beaucoup recommencent à planter toutes sortes de légumineuses pour augmenter la fertilité de leur sol. À force d'utiliser des produits chimiques, la terre devient aride et elle a besoin qu'on y réinjecte la vie.
Donc cette technique est bonne pour l'environnement aussi.
Oh, massively, yeah, absolutely massively, because of course we don't use any fungicide. Oui, énormément, parce qu'on n'utilise aucun fongicide ou insecticide, ce qui signifie qu'on ne tue pas tous les insectes qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Nous avons donc beaucoup d'insectes. On pourrait penser que ce n'est pas bon pour nos cultures, mais la nature fait bien les choses. Il y a autant d'insectes prédateurs qu'il y a d'insectes destructeurs. Nous avons beaucoup d'abeilles sauvages et de coccinelles, notamment, qui se nourrissent de ces nuisibles. Alors, même si nous avons des nuisibles, nous n'en avons pas trop. Nos cultures gèrent ça naturellement.
Michael est un agriculteur bio convaincu. Son blé est beaucoup plus solide que celui qui est stimulé par des produits chimiques, dit-il, parce qu'il a appris à se défendre contre l'adversité et à cultiver ses propres défenses immunitaires. Tout n'est pas parfait par contre, parce que les récoltes sont plus petites, la moitié moins que pour les cultures classiques, d'autant plus qu'un tiers des terres de Michael est toujours en repos à cause des rotations. Laisser la nature suivre son cours, cela nécessite aussi moins d'efforts de la part de Michael, qui ne travaille dans sa ferme qu'avec l'un de ses fils. Ils emploient parfois des travailleurs contractuels pour les récoltes, mais la plupart du temps, ils ne sont que tous les deux. Mais si la nature travaille en quelque sorte pour Michael, il lui rend l'appareil. Ses terres s'étendent peut-être à perte de vue, mais elles sont bien compartimentées. On peut voir en fait plusieurs rectangles de champs cultivés séparés par des bandes d'herbes relativement hautes.
Ce sont ce qu'on appelle des lisières d'herbe. Elles font toutes à peu près 3-4 mètres de large. Elles servent à compartimenter nos terres et elles sont remplies de fleurs sauvages, ce qui fait bien sûr le bonheur des papillons et des abeilles ou de tout insecte qui aime le pollen ou le nectar. On a aussi divisé nos terres en plusieurs champs avec des bandes de scarabées qui sont en fait des bandes enherbées, avec là encore beaucoup de fleurs sauvages et d'insectes. Le but, comme le nom l'indique, est de fournir des habitats refuges pour les scarabées prédateurs que nous voulons avoir sur nos terres. Ils mangent les œufs des limaces et d'autres insectes nuisibles.
Toutes ces techniques permettent aussi à Michael de faire des économies. Une fois les marges tracées et les banques à scarabées installées, elles ne lui coûtent plus rien, contrairement aux produits chimiques qu'il faut toujours racheter, dit-il. Les revenus des récoltes sont donc plus bas que chez les agriculteurs classiques, mais le coût de production est aussi plus bas, même s'il faut quand même être passionné pour faire tous ces efforts. Michael aime justement se promener sur ses terres dans les petits coins de paradis qu'il a créés, comme ces points d'eau remplis d'herbes hautes.
Ça, c'est uniquement pour la protection de la nature, même si c'est aussi un bon endroit pour nos jeunes vaches. Chaque été, elles passent plusieurs semaines ici aux côtés d'oiseaux échassiers, des bécassines, des jack-bécassines, des vanneaux et bien d'autres espèces. Et des amphibiens aussi, des grenouilles, des crapauds, des tritons crêtés, qui sont une espèce en danger. La taille et la profondeur de cet étang ont été dessinées par un spécialiste, dans le but de favoriser l'installation de certaines libellules très rares.
Quelques petits détours encore et on s'approche de la sortie des terres de Michael. On passe devant des petits carrés de terre, un peu en montée, difficiles à cultiver. C'est là qu'il plante en fait des graines, qui seront utiles aux oiseaux adultes pour se nourrir pendant l'hiver. Des oiseaux qui justement font leur nid dans la grande haie qui délimite les deux derniers champs. Mais ce n'est pas exactement fini. Un peu après l'étable où le bétail passe l'hiver, de l'autre côté de la route même, on aperçoit un petit bois.
Là-bas, il y a 20 ans, on a commencé à planter une petite forêt sur un hectare. Et maintenant, beaucoup d'animaux vivent là-bas. Des cerfs, des oiseaux bien sûr, des belettes, des blaireaux, des lapins. Mais bon, par contre, eux, il y en a trop. Ils vont d'eux-mêmes dans les endroits qui leur conviennent, qui sont assez chauds, et où ils ont de quoi manger.
Well, there we are. You've seen it all.
Nous quittons Michael, qui va directement de sa Jeep à son tracteur pour continuer à travailler, et nous, nous nous dirigeons à une vingtaine de kilomètres de là, dans une autre ferme bio.
Hello, I'm Paul Robinson. I'm the farmer of Waterland Organics.
Waterlands Organic est bio depuis 25 ans. Le terrain de Paul et de son épouse Dorine est beaucoup plus petit que celui de Michael, 25 hectares. Mais ils utilisent un peu les mêmes techniques. Le trèfle est ici encore un allié et aussi le seigle qui génère du potassium dans le sol. Mais Paul n'a pas les moyens techniques, les machines, qui lui permettraient de travailler vite. Il se concentre donc sur ses productions et laisse certains endroits de ses terres vivre leur vie sans faire le même genre d'effort que Michael.
Comme on n'utilise pas de produits chimiques, il y aura toujours des endroits sauvages. On ne peut pas faire autrement, ce ne serait pas rentable de s'en occuper. Et dans tous ces coins sauvages, il y a de la vie. On a une haie près de la maison et il y a des nids dedans. Je ne les avais pas vus jusqu'à ce que les feuilles tombent. Et pourtant, je passe devant tous les matins. Un peu plus loin, là-bas, on a de tout. Des blaireaux, des renards, des belettes, des lapins, des lièvres. On a beaucoup de souris dans les champs, donc bien sûr, beaucoup de rapaces, des petits faucons par exemple, mais aussi des oiseaux, comme des pinsons dorés. Sur un terrain si petit, c'est vraiment très bien.
Paul cultive beaucoup de légumes dans des serres. Poireaux, concombres, fenouilles, céleri, et même sous cette bâche qui retient la chaleur et l'humidité pour accélérer la croissance de la production, il y a de la vie.
On ne fait rien pour, mais il y a une telle variété de cultures que c'est un peu une invitation. Et puis, il y a plein de petites choses ici et là aussi. Juste devant l'entrée, par exemple, il y a des orties. C'est bien pour les bombilles et d'autres insectes qui entrent à l'intérieur et prennent ce qui les intéresse. Nos cerfs, pendant l'été, c'est un autre monde. Les bombilles qui volent partout, les coccinelles qui se promènent, on se croirait dans le film Avatar. Et à chaque fois, je me demande, mais comment c'est possible? Et puis la nature fait son œuvre. Les insectes dangereux pour nos productions, ils disparaissent rapidement. Il est vraiment rare aujourd'hui qu'on perde une récolte à cause de ça.
Il y a quand même des petits coups de pouce que Paul donne à la nature. Une fois par an, par exemple, il plante des arbres.
La plupart des années, on en plante près de 200. Beaucoup de ceux que vous voyez là sont encore tout petits. Mais l'an dernier, par exemple, je n'ai pas pu en planter du tout. C'était une très mauvaise année pour les récoltes à cause de la météo, donc je n'avais pas les moyens. Mais j'aime faire ça pour jouer mon rôle, j'imite la nature en fait. Avoir une diversité d'arbres et de plantes permet de conserver un ordre naturel. Ici, nous avons surtout des saules, ceux-là par exemple. Ils sont là depuis au moins 200 ans, et peut-être même plus. Mais on a aussi planté beaucoup de bouleaux, de cerisiers, des peupliers, des chênes, plein de variétés. Et puis aussi, comme il y a beaucoup de vent ici, les arbres le coupent et ça protège nos cultures.
Les récoltes de Paul lui rapportent entre 60 et 75 000 euros bruts par an. Mais comme il laisse la nature faire son ouvrage, son profit net annuel n'est pas beaucoup plus bas que ça. En tout cas, pour cet ancien chimiste, la vie à la campagne, avec son épouse et son chien de berger, à la retraite depuis que la ferme n'a plus de moutons, ça n'a pas de prix. Nous reprenons la route pour le Lincolnshire, dans le nord de l'Angleterre, une région moins aisée que le Cambridgeshire où nous étions. C'est la Pink Pig Farm, près du bassin sidérurgique de Scunthorpe, que nous allons voir. Changement total de décor, c'est une ferme d'élevage.
Hello, I'm Sally Jackson from the Pink Pig Farm. We have about over 100 pigs on site of varying sizes. So we have 13.
Nous avons plus de 100 cochons de toute taille, 600 poules de ponte et environ 50 brebis et plein d'autres petits animaux, mais c'est plutôt pour les visiteurs et les familles.
So the farm has been in the family for over 90 years. It
became La ferme est dans la famille depuis plus de 90 ans et elle est devenue bio vers la fin des années 90. En 2001, on a ouvert notre première boutique et un café, ainsi que nos premières activités pour les tout-petits que l'on a développées depuis. Nous avons cessé d'être bio en 2010 à cause de la récession. Nous aurions dû augmenter nos prix et ça n'aurait pas fonctionné pour nous.
Sally et son époux Andrew ont décidé d'abandonner le label bio, mais pas l'éthique. Leurs animaux sont tout le temps dehors et leur bien-être reste une priorité. C'est pour ça qu'ils ont développé les activités pour les visiteurs. Les familles sont toujours contentes de voir des cochons et des moutons heureux. Une raison de plus pour bien s'occuper des bêtes. Et dans les jours comme aujourd'hui, où le vent rend la visite très désagréable, tout le monde est content de se réfugier dans le café qui sert des produits de la ferme.
Quand on est bio, la protection de la nature va de pair avec le travail de fermier et d'agriculteur. Mais on ne s'est pas beaucoup écarté de ce modèle, à part pour les pesticides et les produits chimiques sur nos terres arables. Nous avons toujours été des environnementalistes.
Vous faites quoi alors pour protéger la nature et l'entretenir ?
Nous faisons très attention quand nous coupons nos haies. D'ailleurs, on ne le fait pas chaque année pour ne pas déranger les oiseaux qui font leur nid. Mais ce sont surtout nos 10 années bio qui ont fait du bien au sol et qui ont attiré la vie sauvage. On a plus de 100 espèces d'oiseaux. On a des lièvres, des lapins, trop de lapins, et des cerfs qui sont d'ailleurs de plus en plus un problème dans le Lincolnshire. Mais pour l'instant, ça va.
Andrew.
Yes, the government obviously have access to environmental.
Le gouvernement a accès à des fonds pour aider les fermiers à préserver l'environnement. Donc, il y a 5 ans, je me suis dit que j'allais mettre les parcelles de nos terres les moins fertiles dans un de ces programmes. Ça me rapporterait quelque chose et ce serait bon pour la nature. J'avais tout à y gagner. C'était un projet financé par l'Europe, mais géré par le gouvernement britannique. Comme d'habitude, il y a des inspecteurs qui viennent à l'improviste pour faire des contrôles. Et je pensais que je faisais tout bien. Mais eux, plusieurs fois, n'étaient pas d'accord. Donc, ils m'ont retiré une partie de ma subvention, ce que je n'ai pas apprécié. Donc j'ai pris l'option de rupture de contrat à mi-parcours, au bout de 5 ans. Ce que je vais faire maintenant, c'est que certaines de ces terres, je vais à nouveau les cultiver, et sur d'autres, je vais faire mon propre projet de conservation.
Et vous comptez faire ça sans aide de l'Europe ni du gouvernement ?
En Angleterre, on a un programme basé sur le volontariat qui nous rapporte des fonds, le Farm Environment Scheme. Il y a quelques années, il y avait des groupes de pression écolo très forts et ils voulaient que tous les exploitants soient obligés de mettre de côté une partie de leurs terres cultivables pour la protection de la nature, ce qui ne nous a pas plu. Donc, nous avons obtenu cette nouvelle version sur la base du volontariat.
Il y a encore au moins une autre solution pour les fermiers qui veulent en faire un peu plus pour la nature, mais qui sont bloqués par le coût et surtout par la perte de revenus que cela peut générer. Direction Londres cette fois, où une association des fermiers de la région du Kent se retrouve pour leur dîner annuel. Au menu, une discussion sur le Brexit, mais c'est à Tom Chu, le chef exécutif de l'Environment Bank, la banque de l'environnement, que nous voulons parler.
Nous sommes une compagnie qui travaille avec les crédits de compensation pour l'environnement. Ces crédits sont en fait des sommes payées par les développeurs qui, en construisant une maison par exemple, acceptent volontairement le fait qu'ils ont un impact négatif sur la nature. Alors, en échange, ils financent la sanctuarisation d'un terrain ou d'une partie d'un terrain, si possible dans la même région. Le but est de donner cet argent aux propriétaires terriens et aux fermiers qui veulent investir dans un programme de protection de la nature de long terme, à condition d'être compensés pour les coûts et les pertes que cela génère. Ce peut être des agriculteurs ou des éleveurs, mais c'est quelque chose qui se décide avec l'exploitant parce qu'il doit voir ça comme une opportunité économique.
Et combien cela peut-il leur rapporter ?
Bien, ça dépend. Mais la Banque de l'Environnement peut par exemple payer 1200 euros par hectare par an. C'est vrai que par rapport au prix du maïs, par exemple, ce n'est pas grand-chose. Mais par rapport à d'autres productions, c'est assez intéressant. Sans oublier que nos programmes courent sur un temps plus long que la plupart de ceux du gouvernement ou de l'Union européenne, qui durent entre 5 et 10 ans. Avec nous, le fermier s'engage sur 30 à 50 ans, et chaque année, le montant augmente en fonction de l'inflation.
Assis à sa gauche, Philippe Merix est très intéressé. Il est le propriétaire de Kings Hill Farm dans le Kent et gère une réserve naturelle, Emly Nature Reserve. Il est justement actuellement en discussion avec la Banque de l'Environnement. La région est de plus en plus prisée et les constructions se multiplient. Il cherche donc des terres à acheter pour y créer un habitat naturel pour les pollinisateurs ou pour les oiseaux. Tout dépendra du terrain qu'il acquérera, car pour l'instant, sur ces terres, aucune ne ferait l'affaire.
Les fermiers sont les mieux placés pour s'occuper de ça. C'est une partie de plus en plus importante de notre business, même si pour l'instant, c'est encore une petite partie. Les travaux de conservation que je fais déjà doivent représenter environ 10% de mes revenus, mais c'est pour le bien public, donc ça ne se quantifie pas. Et dans le monde d'aujourd'hui, les fermiers ont deux rôles. Ils doivent produire des aliments, mais aussi des espaces verts pour se promener, entretenir les points d'eau, prendre soin des animaux sauvages, toutes ces choses dont le public très clairement veut profiter.
Philippe Merix a raison, toutes les fermes que nous avons visitées sont ouvertes à tous et les week-ends, les familles viennent s'y promener. La seule exception serait Waterlands Organic, la ferme de Paul et Doreen Robinson, mais chaque week-end, ils ont des dizaines d'étudiants de l'université voisine de Cambridge ou des locaux qui viennent les aider. Il y a un intérêt renouvelé en Angleterre pour les produits naturels et pour la nature et les fermiers sont les premiers à en bénéficier.
Angleterre, des fermiers au service de la nature, c'était un reportage de Marie Billon en partenariat avec l'Union européenne. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes pour parler de la protection des grands singes en Afrique. C'est pas du vent, à suivre.